France Inter. Le 7-10.
Et oui, nous sommes le 1er mai. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la mort d'une icône littéraire américaine, Paul Auster, est décédé cette nuit.
L'auteur prolifique de romans, poèmes et films est décédé à Brooklyn, dans sa ville, New York, qu'il a propulsé sur la scène internationale. Benjamin Netanyahou inquiet d'un possible mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En France, un défilé du 1er mai moins unitaire que l'année dernière. Le Rassemblement National présente aujourd'hui le début de sa liste pour les européennes et puis les adieux de Rafael Nadal à l'Espagne, éliminé hier du tournoi de Madrid.
Et les invités d'Inter ce matin, bonjour Sonia De Villers, 7h50.
Bonjour à tous. Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et présidente des éditions Actes Sud, nous racontera son ami Paul Auster, de l'invention de la solitude parue en 1982 à Baumgartner, sortie là au mois de mars. Françoise Nyssen a publié tous les livres de Paul Auster en France. Elle sera au téléphone avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. 9h20, Léa Salamé reçoit l'actrice Juliette Binoche.
France Inter.
Il parlait un français parfait, lui qui avait passé 3 ans à Paris dans sa jeunesse à traduire Sartre ou encore Simenon, l'écrivain américain Paul Auster, longtemps plus connu en France qu'aux États-Unis, est mort cette nuit à New York des suites d'un cancer, selon le New York Times. Il avait 77 ans. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Paul Auster s'était fait connaître dans les années 80 par sa trilogie new-yorkaise, cette ville à laquelle il était intimement lié.
Oui, il était né de l'autre côté de l'Hudson, à Newark, dans le New Jersey, mais il est indissociable, effectivement, de sa ville d'adoption, et notamment de son quartier de Brooklyn, où il s'installe dans les années 80. Il disait, quand on a cette ville dans la peau, le reste de l'Amérique a l'air d'un coin paumé. Mais sa réputation allait bien au-delà, évidemment, des maisons de briques du quartier de Park Slope, où il vivait. En France, notamment, vous l'avez rappelé, il avait vécu à Paris dans sa jeunesse, et il parlait très bien notre langue. Il était reconnu dans le monde entier comme son regard beau et triste à la fois. Pourtant, son premier roman, City of Glass, a été refusé par 17 éditeurs avant d'être publié finalement par une petite maison d'édition californienne. On est en 85, ça deviendra le premier volet de la trilogie new-yorkaise. Il y aura ensuite Moon Palace en 89, l'histoire d'un étudiant orphelin qui reçoit un legs de milliers de livres, Léviathan en 92 et plusieurs scénarios, certains qu'il a réalisé, Smoke de Wayne Wong en 95, très inspiré là encore de sa vie à Brooklyn, ou Lulu on the Bridge 3 ans plus tard, toujours avec Harvey Keitel et toujours chez lui, l'histoire d'un saxophoniste de jazz touché par une balle perdue dans un club new-yorkais évidemment.
Sébastien Paour en direct depuis Washington pour Inter. Je vous rappelle que Françoise Nyssen, l'éditrice historique de Paul Auster, sera notre invitée tout à l'heure à 7h50.
Il est 7h03. Benjamin Netanyahou pourrait-il se retrouver au banc de la communauté internationale?
La menace commence à inquiéter le Premier ministre israélien alors que la Cour pénale internationale serait en train de préparer des mandats d'arrêt. La CPI n'a jusqu'à présent fait aucun commentaire à ce sujet, mais des procureurs auraient auditionné ces derniers jours des médecins sur de possibles crime de guerre israélien dans les hôpitaux de Gaza. Selon les médias américains, le Premier ministre israélien serait suffisamment préoccupé pour en avoir parlé à Joe Biden dimanche au téléphone. Valérie Krova.
En Israël et aux États-Unis, l'hypothèse d'un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou est prise très au sérieux. Le Premier ministre a pris les devants. La menace d'arrêter des responsables de la seule démocratie du Moyen-Orient créerait un dangereux précédent, a-t-il écrit récemment sur X, dénotant une réelle inquiétude. Yoann Soufi est avocat spécialiste du droit international.
Oui, il a raison d'être inquiet parce que une fois qu'un mandat d'arrêt est délivré par la Cour pénale internationale, les 124 États qui sont membres aujourd'hui de la Cour ont l'obligation juridique d'arrêter les individus à partir du moment où ils posent le pied sur leur territoire. C'est exactement la même chose pour le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour les crimes commis en Ukraine.
Benjamin Netanyahou serait contraint de limiter ses déplacements, comme Vladimir Poutine depuis mars 2023, à l'exception des pays qui n'ont pas ratifié le traité fondateur de la CPI. C'est aussi le cas d'Israël et de son allié américain, qui réfute la compétence de la Cour à délivrer des mandats d'arrêt. Mandats qui seraient pourtant sur le point d'être émis.
Les mandats d'arrêt sont imminents. On parle plutôt d'une question de jour.
Le procureur de la CPI devrait de la même même manière lancé des mandats d'arrêt contre les responsables du Hamas qui ont organisé les attaques du 7 octobre.
Benjamin Netanyahou qui reçoit ce matin dans son bureau à Jérusalem le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, venu lui redire son opposition à une offensive à Rafah qu'Israël entend maintenir coûte que coûte. Et alors que la mort, selon le Hamas, de plus de 34 500 personnes à Gaza mobilise les étudiants américains, des dizaines de policiers de New York anti-émeute sont intervenus manu militari il y a quelques heures à peine pour déloger les manifestants de Columbia. Pendant qu'à Providence, dans le nord-est du pays, un accord a été conclu pour la première fois entre une direction d'une université et des étudiants. La présidente de Brown University a promis que son conseil d'administration étudierait la possibilité de couper des liens avec des sociétés liées à Israël, en échange de quoi les étudiants ont levé le camp.
Il est 7h06, des cortèges dans toute la France aujourd'hui.
Oui, c'est le 1er mai, fête des travailleurs. 120 000 à 150 000 personnes attendues dans les 270 rassemblements partout dans le pays. Premier cortège dès 10h ce matin, comme à Clermont-Ferrand. À Paris, la manifestation partira de République à 14h, direction Nation. Bonjour Maxime Detz.
Bonjour.
Un an après la réforme des retraites, un 1er mai moins unitaire que l'an passé.
Oui, comme un retour à la normale. Hein. S'il fallait un symbole, il y a un an, Force ouvrière, fait extrêmement rare, avait accepté de défiler aux côtés de la CGT, comme au moment de la loi travail en 2016. Les retraites en 2023 avaient justifié ça. Cette fois, les deux frères ennemis, entre guillemets, défileront chacun de leur côté à Paris. Pas de photos cette année non plus des leaders syndicaux ensemble. Si Sophie Binet sera bien dans le cortège parisien pour la CGT, son homologue à la CFDT, Marie-Lise Léon, est attendue, elle, à Nancy à la mi-journée. CFDT et CGT qui n'ont d'ailleurs pas réussi à s'accorder sur la rédaction d'un communiqué commun pour ce 1er mai.
Le temps de l'intersyndical semble donc loin, Maxime, mais cela ne veut pas dire que les syndicats ne sont d'accord sur rien.
Alors non, hein, on peut parfois être d'accord sur le fond et choisir de rester discret sur la forme. Puisque l'on parle travail en ce jour spécial, parlons aussi de ceux qui en sont privés, de ce qui les attend plutôt si le gouvernement resserre encore les règles de l'assurance chômage. Opposition claire ici, par exemple, de tous les syndicats, comme le rappelle François Omril à la CFE-CGC.
Qu'on soit pas tous ensemble au 1er mai ne dit rien de ce qu'on sera en capacité de mettre en place dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Unité totale sur ce sujet populiste, néfaste, disent les syndicats, où l'on sent qu'il ne faudrait pas les pousser trop longtemps pour qu'ils se retrouvent, même si le temps de prendre la pause ensemble semble pour l'instant appartenir au passé.
Maxime Deps, et puis dans les manifestations peut-être aussi des enseignants, le ministère en recherche d'économie a demandé au rectorat de raboter les heures supplémentaires des professeurs. Elles ne sont plus payées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Certaines heures de cours ou de dispositifs de soutien ou d'orientation vont donc s'arrêter brutalement, y compris pour les élèves. Le groupe Bolloré cherche à investir dans la construction d'une usine géante de batteries électriques. Information ce matin du journal Les Échos. Un investissement de plus de 2 milliards d'euros pour une usine qui emploierait 1500 personnes à l'horizon 2030. On en est qu'au stade du projet qui prendrait forme à un carrefour logistique entre la France et l'Allemagne. On y revient avec l'édito Écho à 8h moins le quart. Un 1er mai trusté aussi de longue date par les lepénistes qui choisissent donc aujourd'hui de présenter les 35 premiers noms de la liste que le Rassemblement National présente aux élections européennes. La date, symbolique donc, le lieu aussi, Perpignan, ville gagnée par le parti il y a 4 ans. Une liste que Jordan Bardella a commencé à dévoiler depuis plusieurs semaines, mettant en scène chaque ralliement de la société civile, avec Élodie Forêt toutefois des failles dans le casting.
La joie du délégué départemental du RN à Mayotte aura été de courte durée, annoncée sur la liste mais rapidement évincée, en cause des saillies racistes, complotistes et sexistes sur sa page Facebook révélée par Libération. Une erreur vite oubliée, veut croire un élu. Sulfureuse aussi, l'essayiste Malika Sorel, très radicale sur l'assimilation. Dans son dernier livre, elle s'interroge ainsi sur les efforts réellement fait par Éric Zemmour, lui qui s'est marié avec des femmes de sa communauté, écrit-elle. C'est une intellectuelle, elle n'a pas les mêmes codes que nous, excuse un député qui l'assure. La présence de Sorel reste un plus et le bilan des ralliés est positif, avec notamment de hauts fonctionnaires qui osent sortir de l'ombre. Un recrutement qui, selon un ancien du RN, ne masque qu'à peine l'extrême faiblesse de l'appareil et de ses ressources humaines, qui conduirait le parti à réinvestir les euros députés sortants les plus controversés, le russophile Thierry Mariani ou l'égérie des antivax Virginie Joron, devraient ainsi conserver leur position éligible.
Meeting du Rassemblement National. nationale donc cet après-midi à Perpignan avec aussi la prise de parole de Marine Le Pen.
7h10, ils ne peuvent pas se déplacer sans leur chien, mais ce n'est pas toujours facile.
Oui, trop de taxis ou de VTC refusent encore de faire monter les chiens guides d'aveugles avec leur maître. La loi l'exige pourtant et y contrevenir est passible d'amende. Les entreprises du secteur, Uber en tête, tentent donc de faire des efforts pour lutter contre cette discrimination. Reportage Sarah Mansoura.
Il y a quelques jours, Thibaut de Martinpré veut embarquer dans un Uber avec sa chienne. Il essuie un refus.
Le chauffeur voulait partir alors que mon chien était dans le véhicule. Moi, j'avais la laisse au bout de la main et puis il partait la porte ouverte.
Situation malheureusement courante, selon lui.
Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il voit le chien et il repart tout de suite. Donc, je vois juste dans l'application que le chauffeur a annulé la course. Bon, c'est discriminant, c'est fatigant, ça ramène du stress, la charge mentale en plus.
Encore affecté par une violente altercation l'an dernier, Anthony Martin-Smith voit des améliorations chez les plateformes, mais n'embarque plus sans ses lunettes avec caméra intégrée.
Pour moi, la vidéo est un moyen de me protéger, mais là, je filme uniquement quand je sens que la situation peut être conflictuelle ou surtout quand le chauffeur a une note dégradée.
Son cas a largement accéléré les efforts de pédagogie chez Uber. Depuis septembre, la plateforme oblige tous ses chauffeurs à visionner une vidéo rappelant la loi.
La personne est garante de son chien et le fera monter elle-même dans la voiture.
Louise Pazin, responsable communication.
Et les chauffeurs ont 100 jours pour regarder cette vidéo pour pouvoir continuer à se connecter à l'application Uber et donc recevoir des courses. Et aujourd'hui, c'est plus de 50 000 chauffeurs qui ont visionné cette vidéo.
Uber travaille avec des associations pour mieux cibler les cas de discrimination et les sanctionner. Les utilisateurs saluent ces progrès mais regrettent que les forces de l'ordre ne soient pas toujours au courant qu'il est illégal de refuser un chien accompagnateur.
Le ministre des Transports a annoncé hier soir que l'État allait prendre en charge la moitié du péage de l'A14 pendant la fermeture du tronçon de l'A13 qui mène à Paris. Attention, cela ne concerne que le covoiturage, donc à partir de 2 personnes dans le véhicule, les modalités techniques ne sont pas encore précisées. L'Île-de-France qui va être balayée par des orages ce soir, tous les départements de la région sont en vigilance orange. Au total, 14 départements avec aussi la Marne, l'Aube, Lyon, l'Oise, la Somme et l'Aisne. Le PSG fera-t-il ce soir un pas vers la finale de la Ligue des champions de football? Première étape à Dortmund contre le Borussia, c'est ce soir à 21h. Dans l'autre match hier, demi-finale à rebondissement entre le Bayern et le Real, un pénalty de chaque côté et un nul de partout arraché par les Espagnols à 10 minutes de la fin. Tout se jouera donc dans 8 jours à Madrid. Madrid qui a fait ses adieux hier à son dieu du tennis, Rafael Nadal, éliminé en 8e de finale du tournoi par Jiří Lehečka. C'était le dernier match de l'Espagnol en compétition dans son pays. Le central était donc archi comble pour dire au revoir au plus grand sportif espagnol de l'histoire, Fabrice Abgral.
Il est minuit 4, un dernier revers dans le couloir et c'est fini. Rafael Nadal s'incline, battu, éliminé. Alors certes, il n'en a pas terminé avec le tennis, mais c'était bien son dernier match à Madrid devant son public, ses amis et sa famille. À la fin de la rencontre, sur le court, Rafael Nadal s'est adressé aux spectateurs. Il était souriant, parfois très drôle, évidemment ému. Mais il n'a jamais pleuré.
C'est très spécial pour moi à bien des égards. Honnêtement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer une fois de plus ici, sur ce court qui m'a tant apporté à tout point de vue. Mais c'est vraiment la dernière fois que je viens ici à Madrid. J'ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion mon métier. C'est un cadeau qui m'a été fait pendant 21 ans. Merci.
Puis Rafael Nadal a repris son sac, il a salué le public, il a quitté le court central sous les applaudissements et l'ovation d'un public espagnol ému aux larmes.
Voilà, et quant à Roland Garros, eh bien, il prendra sa décision après le tournoi de Rome qui débute dans une semaine.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le Zoom. Aujourd'hui, auprès des militants du printemps écologique, c'est le premier syndicat vert.